Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actu tech, internet et gadgets. Un gros programme aujourd'hui, ou plutôt un petit programme qu'on va faire bien avec YouTube qui enlève les dislikes, Microsoft qui annonce des nouvelles versions de Windows, Apple qui fait des choses pas très acceptables peut-être, on vous laissera en juger. Je suis Patrick Béja, on est en novembre 2021 et c'est l'épisode numéro 431. Avec d'un côté Marion. Comment ça va Marion? Est-ce que tu es en forme?
Hello, hello, super en forme, début de semaine, ravie de terminer le lundi en bonne compagnie avec vous.
Et oui, parce qu'on enregistre lundi soir, donc on n'est pas en live, on n'a pas de vidéo, mais ça vaut le coup parce qu'on est aussi avec Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment vas-tu Jeff? En forme aujourd'hui?
En forme, super content de commencer ma journée, puisqu'il est 9h du matin pour moi, avec vous, un enregistrement du Rendez-vous Tech, donc on y va.
Justement, et on va tenter un truc différent aujourd'hui, on va voir, c'est une expérience, hein, ça se trouve ça va être catastrophique, mais ça se trouve ça va être marrant, je vais vous raconter ça dans un instant, juste le temps de dire un immense merci à Fabien, Hubert Varlet, Gaël Breton, Tari Rock, Alexandre Jay, Thomas Dumazer, Anthony Mouton, Benoît Beaucheron, Barthélémy, Jazz Chris et Neolnkal, dont j'ai bien prononcé le nom, ainsi qu'aux producteurs Stéphane Grégory Sata et Franck Matignon, qui n'ont de relâche que de soutenir l'émission. Merci à vous tous et à vous toutes. J'apprécie énormément votre soutien. C'est grâce à vous que cette émission existe. Patreon.com/RDVTech pour rejoindre ces personnes absolument formidables. Et donc, on va tenter un truc aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vais vous expliquer tous les deux. J'en parlais un tout petit peu avant et vous n'avez pas l'air très chaud. C'est pas, on va voir. Faut tenter des choses dans la vie. Le programme de la journée est un petit peu plus léger que d'habitude, mais je me suis dit on va tenter de faire une émission contrôlée et qui va se terminer en un temps record. Je sais que je l'ai déjà dit par le passé, mais je n'ai jamais réussi. Pourquoi ? Parce que moi, je parle beaucoup trop. Patrick parle trop, c'est un fait et c'est bien connu. Et donc, on va essayer, on a 6, 7, 8 sujets, et on va essayer de mettre un timer pour que je les explique. Vous savez que je parle toujours un petit peu au début, comme je le fais maintenant. Je les explique en 2 minutes chrono, si, et il y aura une petite sonnerie qui indiquera que c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément s'arrêter de parler dans la seconde, hein, mais il faut terminer sa phrase, on va dire comme ça, et puis c'est un indicateur. Et pour en discuter après, on aura 5 minutes environ. On va voir ce que ça donne. C'est une expérience. Ça se trouve, ça sera horrible. Mais voilà le son que fera le truc quand ça sonne. Voilà. C'est comme ça. Je pense que ça sera sympathique. Donc, on aura 2 minutes d'abord.
C'est le fouet de Patrick.
C'est ça, exactement. Tu sais que j'ai un bruit de fouet qui devrait... Ah, attends, ça m'a donné une idée. On en reparlera dans quelques semaines. Il y a des trucs qui se préparent. Mais du coup, ça vous va, ce bruit-là, pour arrêter? Vous aviez l'air de dire, non, mais c'est horrible, enfin, de quoi tu parles, Patrick? C'est lamentable. Avant qu'on commence à enregistrer, vous n'êtes pas prêts.
Ça va, je trouve que le son, en tout cas, est pas trop crispant. Maintenant, on va voir à répétition comment ça se passe.
Tu as atteint ta liberté d'expression.
Bon, bien sûr.
C'est surtout, je suis honnête, hein, c'est surtout pour moi. Les 2 minutes au début, c'est surtout pour moi. Et je me demande si les auditeurs vont pas dire les 2 minutes pour Patrick, c'est bien. Les 5 minutes après pour les invités, non. Ça, effectivement, c'est de la censure. Donc, ils vont me dire, il faut que Patrick... C'est pour me forcer à parler un petit peu moins. On va voir. Vous savez que l'un des retours les plus fréquents de l'émission, étonnamment, je suis sûr que ça vous surprend, c'est que Patrick parle trop. Donc... On va voir.
Non, mais ils adorent ça, les auditeurs, quand même.
Peut-être qu'ils pourraient adorer ça encore plus s'il y en avait un peu moins. On ne sait pas. On va voir.
Tu m'aurais prévenu avant, j'aurais pris mon popcorn et mon timer pour compter le nombre de minutes ou de secondes que tu dépasses ta propre alarme.
C'est ça qui est important, c'est ça qui est important.
Et à la fin, tu fais une survey en disant, est-ce que vous aimez le ding-dong?
Et bah écoute, je pense que les gens vont pouvoir répondre. Il faudrait que je fasse effectivement un sondage. Bon, on verra. Mais déjà, les réactions, organiques, on va voir ce que ça donnera. Donc, premier sujet, j'ai 2 minutes pour vous l'expliquer, je lance le timer. YouTube a annoncé qu'ils allaient supprimer la possibilité de voir les dislikes d'une vidéo. Vous savez que sur une vidéo YouTube, on peut cliquer like ou dislike, on pourra toujours le faire, mais ils vont supprimer l'affichage des dislikes pour tout le monde. C'est suite à un test qui a eu lieu depuis quelques semaines ou quelques mois dans certains pays du monde. Là, ils le généralisent. Et les réactions n'ont pas été hyper positives. Ils ont plutôt disliké la décision de YouTube. Et il y a une raison pour laquelle ils font ça. YouTube a dit que c'était en priorité pour protéger le bien-être des créateurs qui sont souvent affectés de manière assez négative par ce ratio permanent et la quête du like et ce genre de choses. Alors, les likes seront toujours affichés, mais plus les dislikes, et que ça pouvait aider les créateurs et leur bien-être ou les attaques de dislikes, ce genre de choses qui sont une forme de harcèlement. Suite à ça, la communauté a réagi, parfois vivement, de manière un petit peu ridicule, parfois avec des arguments comme MKBHD, le plus grand reviewer tech, Marcus Brownlee, qui a dit « Le problème, c'est que cet outil est utile pour savoir si une vidéo est ce qu'on recherche ou si elle est vraiment bonne. Oui, ça peut être utilisé comme des attaques, mais ça peut aussi, ça a une fonctionnalité importante. Contrairement à des réseaux sociaux où c'est souvent en majorité une expression du sentiment du lecteur, là, ça peut être utile. Et on a vu un exemple assez intéressant. Moi, j'étais pas convaincu, mais un tweet m'a convaincu, en fait, d'une partie de la chose. Clinton Jeff a dit, voilà un très bon exemple de ce que disait MKBHD, il y a un trailer pour Squid Game saison 2 qui est évidemment faux et qui est fait avec des montages de scènes de la saison 1. Mais comme on ne voit pas le nombre de dislikes, eh ben on ne peut pas le savoir, on s'en rend compte au bout d'une minute de la vidéo. Donc ça peut avoir une utilité. 2 minutes pile. J'ai réussi et j'ai stressé, j'avais les gouttes de sueur qui tombaient du front, mais j'ai plus ou moins réussi. Alors,
chapeau, hein.
Les deux peuvent se comprendre. Je vais poser la question à Marion d'abord. Du coup, si tu dois juger la décision de YouTube, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de cacher les likes ?
En fait, je trouve que c'est un peu bizarre de poser cette question, mais en fait, faut regarder les arguments. Moi, c'est ça qui m'intéresse un peu plus. Alors déjà, à savoir qu'ils ont travaillé là-dessus depuis mars, hein. Donc ils ont eu le temps de faire des tests et de monitorer les résultats. Quand même. Donc voilà, ils ont pris leur décision avec du sérieux. Après, c'est les arguments qui sont remontés dans la vidéo de Marcus Brownlee ou les commentaires de la vidéo de Marcus Brownlee ou sur les fils Twitter, parce que du coup, j'ai un peu regardé. Et déjà, il y a une mauvaise compréhension de toute façon, de cacher les dislikes, ça ne va pas empêcher les campagnes, ça ne va pas empêcher d'atteindre la santé mentale ou en tout cas l'équilibre mental des YouTubers. Parce qu'en effet, du coup, ils vont quand même voir le compte des dislikes depuis leur panneau de réglage de paramètres d'admin YouTube.
Tout à fait, ils ne les cachaient que publiquement. Ouais.
Exactement, mais en fait, le but, ce n'est pas de cacher les dislikes pour protéger les auteurs sur YouTube parce qu'ils ne veulent pas avoir de dislikes, c'est d'empêcher les campagnes de harcèlement de dislikes. C'est-à-dire, plus je vois que les gens s'entraînent à faire des dislikes et que le score de dislikes monte, plus les gens vont se faire un effet d'entraînement et harceler la personne avec les dislikes. Parce qu'on voit directement...
Si tu ne vois pas l'effet de tes dislikes, bah, ça ne sert plus à rien. C'est pour ça qu'ils le font,
ouais.
Généralement.
Exactement. Tu n'es pas encouragé à le faire. Donc, en fait, il y a un vrai effet bénéfique ici pour contrer les campagnes de dislikes. Maintenant que ça touche que les petits YouTubeurs ou peu de YouTubeurs, ça, je ne suis pas capable de vous le dire. Je ne fais pas partie de l'équipe YouTube. Mais voilà, en tout cas, la compréhension est comme ça. Après, je pense que voilà, il y a une bonne intention. Certains peuvent dire ça va permettre à YouTube de cacher les dislikes de la vidéo la plus dislikée, qui est le rewind de YouTube. Ça m'a fait largement sourire, autant vous dire. Je pense que comme beaucoup de personnes.
Oui, je pense pas que ça soit. Oui, c'est ça. C'est pas très sérieux comme. C'est pas pour ça qu'ils le font, quoi.
Exactement. Après, c'est intéressant. Il y avait une remarque de Marques Brownlee qui disait « Non, mais YouTube, comment les gens l'utilisent ? C'est via un moteur de recherche. C'est le plus grand moteur de recherche au monde, que ce soit via Google ou YouTube. » Je trouve ça hyper intéressant. Et là-dessus, il dit « Mais qu'est-ce qui va nous permettre de savoir qu'un résultat sur YouTube est valide ou pas ?» Mais j'ai envie de dire « Qu'est-ce qui te permet de savoir qu'un résultat sur Google est valide ou pas ? Est-ce que tu as des likes ou des dislikes ?» Non. Donc, en fait, du coup, il utilise un argument qui démonte complètement son... En tout cas, moi, ça m'a fait sourire, du coup, parce que ma première réflexion, c'est, Google, ils n'ont pas de dislike ou de like, en fait. Le seul moyen de savoir si c'est pertinent, c'est la description de ton lien, le titre du lien, et après, tu cliques dessus, tu te fais avoir ou pas. Et donc, après, tu as une problématique de ranking. Donc, il disait, par exemple, YouTube... C'est différent de Facebook, Twitter, Instagram, qui ont, eux, des moteurs de recommandation. Ce sont leurs produits, c'est un moteur de recommandation. Mais en fait, c'est la même chose, Google. Ils ont un moteur de recommandation ou de ranking, comment tu veux en parler, sur Google et sur YouTube. Mais ils ont tout un système de ranking qui va te permettre de recommander les vidéos les plus pertinentes pour toi. Pas que plus pertinente, point barre, c'est pour toi, en fonction de ce qu'ils connaissent de toi, de ta navigation, de tes consultations, etc.
Et donc pour une vidéo comme celle sur Squid Game, mais c'est vrai que parfois on voit des vidéos, enfin c'est marrant, c'est l'exemple qui a été donné et moi il me parle, on voit des faux trailers de trucs qui sont faits à partir d'images qui viennent d'ailleurs, et quand tu les vois, si t'as pas une idée de la qualité du truc, bah tu vas perdre une minute, deux minutes à le regarder et avant de te rendre compte que c'est en quelque sorte une arnaque. C'est vrai que c'est comme sur Google et quand tu cliques, tu vois bien si le site est bon ou pas, mais tu le vois en une seconde si le site est ce que tu recherches. La vidéo, parfois, bon, c'est peut-être un cas vraiment très, très, très spécifique, les histoires de trailer.
L'autre point qui m'a un petit peu étonnée, c'est il commence son argumentaire en disant bah moi je regarde les dislikes et les likes pour voir si je regarde une vidéo si elle est de qualité. Bah en fait il part de l'hypothèse que tout le monde fait ça. Bah moi j'ai jamais fait ça par exemple.
J'avoue que je l'ai jamais vraiment fait moi non plus, donc c'est plutôt le.
Et donc du coup en fait voilà, YouTube s'est peut-être posé la question qui de notre audience fait vraiment ça et s'apercevoir que finalement, à part les...
Il n'y a que Marques Brownlee.
non, mais en fait, quand on est dans la tech ou quand on a un usage vraiment spécifique ou de power user de YouTube dans un cas spécifique, on le fait peut-être parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais moi, je suis un user peut-être lambda, mais je ne l'ai jamais fait.
Je comprends.
Donc voilà, je ne suis pas hyper convaincue, en tout cas par les arguments avancés par la vidéo, mais elle était bien montée.
Ouais, oui, Marques Brownlee, il a l'habitude. Disons que je regarde le nombre de vues souvent et je prioritise ça. Ah ah, hey, c'est pas si facile de ne pas parler beaucoup. Hein. Là, ça fait 5 minutes déjà. Jeff, quel est ton avis sur la chose ? Est-ce que c'est pas évident, hein, la question.
Rien à dire, il y a le ding-ding qui a sonné.
Allez, prochain article.
D'où l'atteinte à la libre expression. Merde, alors. Marion a très bien résumé la situation. Moi, je pense que essayer d'offrir un système de feedback où on évite les aspects toxiques, c'est intéressant. Et bien souvent, quand je regarde des vidéos qui sont vraiment très bien sur YouTube, où tu vois plein de dislikes, tu te demandes pourquoi, quoi. Et donc, essayer temporairement d'avoir un truc plus positif, je pense que c'est bien et on verra ce que ça donne.
Ouais. Oui, c'est vrai, on verra ce que ça donne. Et ce qui est certain, c'est que si ça affecte effectivement le nombre de vues de total du site, et là, je pense qu'ils feront marche arrière parce que c'est ça leur but principal. Bon. Deuxième sujet, Microsoft a annoncé une nouvelle version de Windows et je lance les 2 minutes pour moi. Je me demande si ça va pas rester, je me suis piégé moi-même. Les 2 minutes sont parties. Microsoft a annoncé Windows 11 SE qui est ciblé sur les écoles et qui est ciblé pour concurrencer Chrome OS. C'est pas la première fois qu'ils font une version de Windows qui est un petit peu différente, qui est simplifiée, mais là, ils ont beaucoup travaillé avec les éducateurs pour essayer de comprendre ce qui faisait le succès de Chrome OS dans ce contexte, dans les écoles. Et on l'a souvent dit, les écoles ont beaucoup adopté, ont massivement adopté Chrome OS, contrairement à ce qu'on peut voir dans les vidéos d'Apple où tout le monde monde utilise des MacBooks. Ils ont également lancé en même temps le Surface Laptop SE, c'est School Edition, hein, je pense, c'est comme Windows SE, qui est à $249, un écran de 11,6 pouces et, comme on s'en doute, une capacité, une puissance assez limitée. On a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, etc. Étant donné que c'est un truc qu'on utilise essentiellement sur Internet, ça peut suffire. Il y a donc dans Windows SE des restrictions, évidemment. Les administrateurs de l'école peuvent choisir d'installer certains logiciels ou non, mais on ne peut pas en ajouter à partir de l'appareil lui-même, et même les logiciels qu'on peut installer sont limités à une liste que Microsoft va établir. Il y a des choses comme Chrome, bien sûr, Zoom, etc., etc. Ils ont aussi lancent toutes les applications en mode plein écran. Ils ont supprimé des choses comme le Snap Layout, qui permet d'avoir différentes dispositions pour les fenêtres, et ils ont uniquement une disposition fenêtre à côté d'une autre, donc deux fenêtres uniquement. Vu la taille de l'écran, c'est peut-être compréhensible. Ils ont aussi supprimé les widgets de Windows 11, et ils ont des choses comme les extensions Chrome qui sont configurées dans Microsoft Edge directement. Donc c'est activé par défaut parce que les écoles utilisent beaucoup d'extensions Chrome. Deux minutes, pas trop mal. Est-ce que vous pensez que ça peut enfin aider Microsoft à conquérir cet espace de l'école? Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop mal pensé, enfin, cette histoire. Mais c'est vrai que les Chrome OS, qui sont très bon marché, vont être difficiles à déloger. Jeff, je sais pas si tu connais bien ce marché, mais il y a clairement un succès des Chrome OS. Enfin, des Chrome OS, je dis Chrome OS, on parle des Chromebooks, hein, bien sûr. Mais il y a clairement un succès des Chromebooks sur ces marchés. Je sais pas si c'est... si Microsoft, avec son logiciel très lourd, va pouvoir s'y imposer.
Bah, je pense que la problématique, c'est un, le coût d'achat de la tablette, et deux, le coût d'opération.
Enfin, de l'ordinateur, là, c'est des vrais ordinateurs.
Des vrais ordinateurs. Et donc, quand tu vois le merdier que c'est de gérer en fait, des trucs sous Windows, même si tu essaies de rendre... Les applications plus facilement gérables, sachant qu'il n'y a pas des masses de budget, t'as pas des masses de personnes pour faire ça, je pense pas que ça réglera le problème.
Ouais, c'est vrai que les Chromebooks, leur attrait, c'est bien sûr le prix, mais aussi la simplicité d'administration. En gros, les Chromebooks, pour ceux qui savent pas, c'est ça. C'est un navigateur Chrome dans un ordinateur et à peu de choses près, basta. C'est vrai que Windows SE, je suis sûr qu'il va être plus simple. Mais ça reste Windows, donc l'administration reste plus compliquée, j'imagine, j'en sais rien. Donc toi, tu penses que même avec un Surface Laptop à $249, ça risque d'être compliqué?
Bah, on verra. C'est une question d'expérience, c'est une question de est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est facile d'utilisation, est-ce que c'est un truc 0,5. Moi, je me rappelle quand ma fille, il y a très longtemps, avait récupéré un iPad qu'ils avaient essayé de brider pour l'école, c'était devenu ingérable et in fine, ils ont tout abandonné. Quoi.
Ouais, ouais.
Et c'était cher en comparaison.
Oui, bien sûr. Est-ce que Marion, tu penses que effectivement Microsoft peut, parce que ça fait un moment qu'ils font du forcing pour les écoles, ou qu'ils essayent en tout cas de faire du forcing pour les écoles, là, est-ce que ça pourrait être une formule gagnante, ou alors ça reste Windows, c'est Windows quoi. Moi j'ai envie d'y croire, j'aime bien Microsoft, cette petite boîte qui a du talent, mais c'est vrai que même dans une version allégée, historiquement ça n'a pas eu beaucoup de succès.
Ouais, c'est un peu le change. En tout cas, c'est une vraie opportunité pour eux, parce que s'ils arrivent à habituer les gens à Windows dès le plus jeune âge, c'est tout à fait logique qu'ils restent avec dans le futur. Donc, je trouve ça hyper intéressant.
C'est pour ça qu'ils le font.
Exactement. Maintenant, pareil, le fait qu'ils aient ouvert un petit peu plus leur système à des applications tierces ou des extensions, c'est un peu plus sympa aussi. mais maintenant, c'est difficile de prévoir si ça va être suffisamment léger pour fonctionner sur ce type de machine. J'espère qu'ils ont suffisamment testé
Oui, avec leur propre machine.
Ouais, après, Microsoft a quand même pas un très très bon historique de savoir simplifier ses systèmes, quoi. Je suis un peu mauvaise langue là-dessus, mais bon.
Bah, c'est ce qui me fait un petit peu peur dans cette histoire. Mais d'un autre côté, je pense que des gens vont dire « Ah oui, mais un Chromebook, c'est vrai que tu peux vraiment rien faire avec. » Enfin, j'exagère, mais pas grand-chose. C'est vraiment un navigateur Windows. Là, ça reste une machine Windows.
Bah, là où c'est vraiment top, c'est le fait que ce soit que les documents, les cours soient accessibles sans connexion. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un vrai différenciant par rapport au Chromebook, surtout pour tout ce qui est un peu foyer, à revenus bas, etc. Il y a eu des gros problèmes lors de la crise sanitaire avec les cours qui devaient être obligatoirement tenus en ligne parce que le taux de connexion ou d'accès Internet n'était pas uniforme et a bloqué l'accès à l'éducation à pas mal de foyers. Et ça, je trouve que c'est vraiment super comme initiative de pouvoir continuer à consulter les cours ou faire les exercices hors ligne. Je trouve ça très, très chouette.
Peut-être qu'ils pourraient tirer leur épingle du jeu. Et puis peut-être qu'il y a une sorte de marché à mi-chemin entre les trucs très, très bon marché avec les Chromebooks et quand même des trucs à 240. On parle du laptop Surface Laptop SE, mais ils seront ouverts à d'autres constructeurs, bien sûr, aussi. Donc, peut-être un truc un tout petit poil plus cher, mais un petit peu plus performant. Reste le problème de l'administration. Quand tu parles de gens qui savent vraiment de quoi il s'agit, ça va. Mais pour une école, c'est vrai que administrer un parc de machines sous Windows, ça doit quand même coûter plus cher et demander des personnels plus qualifiés qu'un parc de Chromebook, quoi. Mais bon.
Ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas le temps d'installer les updates d'OS. Bon, a priori, maintenant, c'est quand même bien fait. Ça se fait automatiquement. Mais c'est pour ça que tu as autant de vieilles machines avec des vieilles versions de Windows qui sont utilisées par les hackers partout aux États-Unis hier.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne, ce Windows 11 SE et ce Surface Laptop SE.
Juste petite question.
Ah merde, je finissais ma phrase. Alors, t'as entendu comme j'allongeais pour arriver.
Je suis là. Vas-y. Pour saboter, en fait.
Vas-y, dis-moi.
En fait, la petite question, parce que je connais pas trop le marché, la différence de prix entre un Chromebook et la proposition de Microsoft, c'est quoi en termes de différence de prix?
Alors, il y a des Chromebooks à différents prix. Hein. Google en a même fait, comment il s'appelait, le Chromebook Pixel, qui était à presque 800 $, 900 $, quelque chose comme ça. Mais ça commence plus bas. Hein. Je pense que pour 100, 150 euros, tu peux avoir un Chromebook.
Ok.
Donc, tu vois, quand tu es une école...
Il y a quand même une sacrée différence.
Ouais. Je sais pas où en est le marché aujourd'hui, mais j'imagine que 150 euros, tu peux avoir un Chromebook. Alors, ça sera pas le meilleur, mais c'est possible. Maintenant, peut-être que ces machines sous Windows SE, sous Windows 11 SE, y aura des constructeurs tiers qui en feront à ces prix-là aussi, hein, parce que mine de rien, dans les Chromebooks, il y a aussi un petit peu de stockage. Bon, on est peut-être sur des trucs comparables à terme. Parlons un petit peu d'Apple, encore une fois. Il y a deux choses dont je voudrais vous parler, enfin deux, trois choses. D'abord, le jugement épique contre Apple, qui avait déclaré que Apple devait autoriser les liens vers des solutions de paiement tiers, a été rendu il y a quelques mois de ça, on en avait parlé. Apple avait fait appel, cet appel a été refusé. Donc, il y a encore une option pour Apple de faire appel devant je ne sais plus quelle instance judiciaire, mais a priori, à ce stade, ça devra être implémenté et je pense que ça va avoir des implications importantes. Mais une autre histoire dont je voulais vous parler, c'est ce que fait Apple avec la pub sur Google. C'est-à-dire que Apple fait de la pub pour des apps de son store, mais des apps tierces, des apps comme Tinder, HBO Max, etc. Et ils font de la pub sur Google en ciblant des utilisateurs iOS qui redirigent vers l'App Store, encourageant les utilisateurs à s'abonner par l'App Store. Et du coup, les éditeurs de ces services qui veulent essayer de récupérer leurs utilisateurs en dehors de l'App Store, ils sont en concurrence avec Apple qui essaye de les récupérer sur l'App Store. Au cœur du truc, évidemment, c'est la question de la commission qui va de 15 à 30% qui est versée à Apple quand les utilisateurs s'abonnent par l'App Store directement. Mais non seulement ça leur retire un choix, enfin ça leur retire un petit peu de liberté à ces éditeurs, à ces développeurs, bon, c'est des gros, hein, on ne va pas non plus se voiler regarder la face, mais Apple, ils sont un petit peu plus gros que ça, ça leur retire un choix. Mais en plus, du coup, les pubs sur Google, pour cibler ces mots-clés, elles deviennent plus chères, parce que Apple enchérit sur le truc, et donc ça leur coûte plus cher de cibler leurs propres produits, à cause d'Apple qui fait de la pub sur ses produits aussi, pour détourner les utilisateurs. C'est pas illégal du tout, c'est dans les règles de Google, mais c'est quand même un petit peu, je sais pas, ça sonne pas super fair play, on va dire, de la part d'Apple. Qu'est-ce que t'en penses, Marion, Apple qui essaye de récupérer les gens vers l'App Store pour toucher ces 30%? Ça devient un petit peu ubuesque, je trouve, cette histoire.
Je trouve aussi, c'est assez rigolo quand on dirait un sketch, mais
c'est ça.
Je sais pas quoi dire tellement ça me paraît fou. D'un côté, t'as envie de le remercier parce qu'en fait, il dépense des sous pour faire de la pub, mais pas
et dans d'ailleurs, ce certains
parce que c'est pour rentrer en compétition en fait.
Mais certains disaient oui, nous ça nous va, hein, ils font de la pub pour nous, ils prennent en charge les frais marketing, pas de problème. Certains autres s'en plaignaient, mais il y en a qu'à qui ça convient.
En fait, ça dépend. C'est-à-dire que si ça fait de la pub là où l'éditeur n'en fait pas, en effet, ça fait de la pub gratuite. Mais si c'est de la pub qui surenchérit sur la pub que l'éditeur fait déjà, juste pour couper le funnel et les rediriger vers l'App Store pour les frais, enfin les 30% ou les 15% d'abonnement, c'est un petit peu abusé quand même, non?
Je trouve. En fait, le truc, c'est que Apple dit, alors voilà les règles, si les gens passent par l'App Store, on prend 15-30%. Si les gens passent pas par l'App Store, vous prenez tout. Et les règles sont établies, sont claires. Et après, derrière, t'as l'impression qu'ils mettent leurs doigts sur la balance, tu sais, et qu'ils font genre, ok, ils peuvent passer par chez vous, mais nous, on va leur dire, venez chez nous, discretos, tu sais, en plus, en faisant monter le prix des pubs. Ça semble pas très fair play, quoi. Jeff, qu'est-ce que t'en penses? C'est le dur monde du business et de la pub, et c'est comme ça, il faut l'accepter, ou c'est quand même pas super cool d'appeler?
C'est quoi ça, fair play? C'est une question d'arbitrage, c'est-à-dire que s'ils ont une façon d'amener du trafic sur les applications à un coût inférieur inférieur à la commission qu'ils se font, c'est plus de fric pour Apple, hein, et c'est une machine à faire du fric. Depuis très longtemps, ils ont diversifié leurs revenus. Ou avant, rappelle-toi, quand on a commencé le rendez-vous tech, c'était essentiellement du hard. Avec un petit peu de soft. Maintenant, c'est énormément de monétisation de l'écosystème, du trafic, de leur communauté, etc. Donc, ça a complètement du sens.
Ouais, donc pour toi, le fair play n'a rien à voir là-dedans. Si ça leur coûte moins cher que leur commission de faire cette pub, c'est ça la règle, quoi.
Tu ne deviens pas une boîte qui vaut 2 trillions en bourse ou 2000 milliards en bourse. En jouant au fair play, je vois pas en quoi c'est pas de la compétition déloyale. Effectivement, le problème c'est que si tu es le publisher et que tu dois payer Google plus d'argent qu'Apple pour ne pas faire payer la commission chez Apple, ça craint, mais c'est comme ça, quoi. C'est cost of doing business, comme on dit.
Et surtout, si c'est le cas, c'est pas intéressant pour Apple financièrement, donc ça se produira pas. Je pense qu'il y a cet équilibre qui se trouve naturellement. Il faut mentionner aussi que du côté de Google... Oui, pardon, Jeff.
De toute façon, c'est comme tout publisher qui doit optimiser sa pub sur les différents canaux, que ce soit social, que ce soit... Sur Google, que ce soit ailleurs, ils feront la même chose. Simplement, ce qu'ils ont, eux, c'est une énormité en termes de trafic et, ouais. Et de données pour faire des approximations beaucoup plus fines.
Ouais. À noter que sur Google Ads, on peut tout à fait cibler le mot-clé d'un concurrent. Si on est, Netflix et qu'on veut cibler HBO, on peut tout à fait faire de la pub sur le terme de recherche HBO. Et ça fera monter le prix de la pub HBO pour HBO aussi. Donc, c'est pas que c'est Apple spécifiquement qui fait un truc que personne n'a jamais fait. Si jamais ils le font spécifiquement pour couler les efforts marketing des boîtes qu'ils hébergent sur leur App Store, ça serait une autre histoire. Mais là, je pense que ça devient un petit peu... théorie du complot et on n'ira pas jusque-là. Bon, on a d'autres sujets intéressants à traiter, comme payer sa place de ciné en Bitcoin, par exemple, ou ce genre de choses. Et avant ça, je voudrais vous poser une question à tous. Est-ce que vous préférez en une semaine, vous préférez boire 10 cafés et pas avoir de rendez-vous tech? Ou est-ce que vous préférez avoir 9 cafés et le rendez-vous tech? C'est une question qui est tout à fait cohérente, puisque le coût du soutien du rendez-vous tech est d'à peu près un café. Bon, vous pouvez donner plus hein, si vous mangez, je sais pas, 10 croissants, 10 sandwichs, 10 pains au chocolat. Et vous pouvez tout à fait donner un petit peu plus, c'est vous qui choisissez. Mais le prix, le coût de base du soutien du rendez-vous tech, bah, c'est le prix d'un café par semaine. Donc si vous en prenez 10 et que ça vous enlève le rendez-vous tech et vous dites « Ah ben non, quand même, allez, pour un café, je veux bien le rendez-vous tech », eh bien, peut-être que vous pourriez vous dire « Le rendez-vous tech, c'est sympa et donc je voudrais le soutenir ». C'est la logique financière implacable, fair play, quand même un petit peu fair play, de la création de contenu. Si ça vous dit, si ça vous parle, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et pour le prix d'un maigre café, même pas de crème, même pas de sucre, vous pouvez soutenir le rendez-vous tech. Bon, si peut-être qu'ils sont inclus, la crème et le sucre. Et ça ne coûte que le prix d'un café. Patreon.com/rdvtech. Je vous remercie infiniment de soutenir l'émission.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
La suite, les sujets qu'on va évoquer. On va parler encore un tout petit peu de Bitcoin, ça énerve tellement les gens, mais c'est pas grave, on va quand même parler un petit peu de Bitcoin. Deux choses sur les Bitcoins. D'une part, AMC, une grande chaîne de ciné aux États-Unis, a commencé à accepter les Bitcoins, et pas que, ils acceptent aussi les Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, enfin quelques crypto-monnaies, ils vont en ajouter d'autres, pour acheter des places de ciné. Et pas que, mais on peut payer aujourd'hui en Bitcoin. Je vais passer sur toutes les questions de le coût de la transaction, le temps de la transaction, la question inhérente au Bitcoin du gâchis énergétique, tout ça. On ne va pas le refaire à tous les coups, on en parle à chaque fois. Il y a des gens que ça énerve, mais bon, là, on parle de ce sujet-là. Et à côté de ça, on se demande peut-être d'où vient l'argent qui continue à faire gonfler la valeur de toutes ces crypto-monnaies. Il y a eu une étude très intéressante du Pew Research Center qui a établi que 16% des adultes américains, des Américains de plus de 18 ans, et 43% des hommes entre 18 et 29 ans ont déjà investi, échangé ou utilisé de la crypto-monnaie. 16% des adultes américains. Alors, peut-être utiliser ou échanger, ça veut dire qu'ils ont à un moment investi quelque part, hein, à moins qu'ils les aient reçus d'un ami. Donc, 16% des adultes et 43% des Américains hommes âgés de 18 à 29 ans. C'est assez... Moi, ces chiffres m'ont estomaqué, mais en même temps, je crois que ça explique très, très bien d'où vient l'argent qui continue à rentrer dans... cet écosystème, c'est peut-être pas la seule chose. La semaine dernière, les anti-NFT et anti-crypto-monnaies me sont tombés dessus. Aujourd'hui, c'est peut-être les pros qui vont m'engueuler. Mais c'est pas la seule chose. Et clairement, les théâtres, les ciné AMC montrent que ça s'étend un petit peu plus tous les jours. Est-ce que, Jeff, toi, l'investissement, c'est ton quotidien. 16% des adultes qui ont déjà utilisé ou investi dans la crypto-monnaie aux États-Unis. Tu pensais que c'était à ce point ? Ça me paraît énorme, moi.
Oui, c'est énorme, mais c'est pas étonnant. C'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui la popularité de la crypto au sens large, que ce soit dans les médias, que ce soit au niveau régulation, donc ce que dit le gouvernement de comment est-ce que la crypto doit être gérée au niveau régulation, au niveau taxe, quand tu vois que Elon Musk tweet super souvent à propos de Bitcoin et que quand il tweet, ça fait bouger Bitcoin dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire qu'il y a énormément d'attention sur le sujet. Et ce qui serait intéressant si on avait ça en un peu plus fin, c'est combien de gens utilisent Bitcoin plutôt que investissent dans Bitcoin. Parce que je parie que la plupart des 16%, c'est essentiellement de la spéculation. Parce que à ce jour, c'est un Bitcoin et crypto, c'est une classe d'assets qui est utilisée de la même façon que les actions, les options, etc. Et donc, ça paraît tout à fait logique pour moi d'avoir une partie de tes investissements en crypto. Et moi, je suis toujours sceptique. Sur l'utilisation, c'est-à-dire que acheter un billet d'avion ou un billet de ciné en Bitcoin, c'est débile, ça sert à rien. Mais bon, si tu veux le faire, pourquoi pas? Ok, super. Moi, j'ai pas de Bitcoin que je peux utiliser comme ça parce que les dollars, ça marche très bien. Mais j'ai une partie de ma net worth en Bitcoin et en crypto et ça a du sens.
Et donc, il y a vraiment une popularité. Peut-être, j'ai l'impression, Marion, tu peux me dire si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression qu'on en parle autant en France ou en Europe. Enfin, on en parle comme curiosité, pas comme quelque chose qui soit... vous pouvez investir demain, même s'il y a des sites qui le permettent. J'ai l'impression qu'on en parle comme quelque chose de distant. Je me trompe ou pas?
Bah, moi, je suis un peu biaisée parce que je suis dans la sphère tech et startup à Paris. Donc, j'ai envie de te dire, si je parle avec mes collègues, il y a un fort pourcentage pour qu'il y en ait qui a investi.
Ah oui, quand même, d'accord.
Monnaie. Ah oui, bah oui. Mais moi, c'est pas mon cas. Mais oui, évidemment, quand t'es dans la tech, les gens en parlent beaucoup et en discutent. Maintenant, mon hypothèse, c'est que c'est quand même quelque chose qui fait très peur. D'abord, en France, on n'aime pas trop ce parier sur les investissements, que ce soit sur des actions ou ce genre de choses, ça nous effraie quand même. On a une culture de l'épargne en France, pas vraiment de l'investissement de cette nature-là. Donc, je pense que déjà, on a un frein. Et en plus, c'est quand même quelque chose qui fait un peu peur, qu'il faut avoir quand même des connaissances tech. Bon, c'est de moins en moins vrai, hein. Mais même moi, j'ai envie de te dire, tu vois, en 2021, j'ai beau être dans la sphère tech, ça me rassure pas du tout d'investir sur de la crypto, quoi.
Je peux te dire
que... Et je vois pas l'intérêt d'acheter des places de... Enfin, si c'est de l'investissement, je vois pas l'intérêt d'acheter des places de cinéma avec de la crypto. C'est de l'investissement ou pas, enfin...
Deux choses. D'une part, j'ai investi récemment pour voir ce que ça donnait. J'ai acheté un petit peu de crypto, comme j'en parlais il y a quelques semaines. Je peux vous dire que c'est hyper compliqué, mais hyper, hyper compliqué. En particulier, si tu veux des trucs qui ont le potentiel de monter vite, c'est super compliqué. À côté de ça, alors évidemment, les bitcoins, c'est pas hyper pratique pour faire des achats courants, mais la promesse de la finance décentralisée, des crypto-monnaies et de la blockchain, c'est justement d'avoir des moyens de paiement décentralisés qui ne se reposent pas ni sur un État, ni sur une banque centrale. Après, ça peut avoir les conséquences dont on pourrait discuter. Mais donc, l'intérêt de payer son billet de ciné avec du Bitcoin, bah, c'est en théorie le rêve de la décentralisation des systèmes financiers. Enfin, le rêve, je veux dire, le fantasme ultime de cet univers-là. Donc moi, ça ne me surprend pas plus que ça qu'on essaye d'y arriver. Bon, après, j'imagine que c'est aussi un effet de mode chez AMC.
Je pense que la promesse est intéressante, mais en fait, moi, c'est la volatilité qui m'interroge. C'est-à-dire que si c'est pour que, avant que j'aille au cinéma, ma place de ciné vaut tant parce que je l'ai payé avec du Bitcoin, et quand je ressors, si je vais garder le Bitcoin, ma place de ciné vaut 100$ de plus, j'ai les nerfs quand même.
Ah bah oui, bien sûr. Sauf si t'as tellement d'argent en Bitcoin que en fait tu t'en fous. tu vois, c'est ça là. Mais c'est sur
oui,
ça
bon,
que.
Bon, ça c'est très, très bien pour les gens, mais mais bon, j'ai envie de te dire, je suis pas prête d'acheter une place de ciné en Bitcoin vu comment ça change ouais. toutes les semaines, quoi.
Et bah visiblement, selon Adam Aron,
c'est un faux problème.
Le président de AMC, il y a déjà une partie du volume de transactions qui est fait en Bitcoin pour d'autres raisons. Hein. Ils avaient fait des tests avant, mais bon. Écoute, c'était une deux données intéressantes sur les bitcoins, je trouvais. Jeff, je me demande
c'est aussi le fait que tout dépend comment tu as récupéré ces bitcoins et depuis combien de temps tu les as, parce que si pour les gens qui ne veulent pas payer de taxes ou déclarer etc, essayer d'utiliser les bitcoins qu'ils ont, sauf si la boîte qui... Enfin, tout dépend comment tu as tes bitcoins, quoi. Soit c'est dans un storage que tu as à toi, soit tu le mets dans un Coinbase ou l'équivalent français. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que la raison pour laquelle c'est vachement plus simple aujourd'hui, c'est que tu as eu une démocratisation, en fait, de l'accès aux cryptos grâce à Coinbase, grâce à Robinhood. Donc, ce sont des services qui sont monstrueux aux États-Unis avec des dizaines de millions d'utilisateurs, avec des frais d'achat et de vente qui sont super limités, si ce n'est zéro, quoi. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un boom monstrueux dans les nouvelles générations, donc les gens qui sont plus jeunes, au niveau stock market, donc les marchés financiers, et c'est la même chose en crypto.
Et du coup, ils sont peut-être intéressés par l'idée de passer de leur portefeuille sur leur téléphone au portefeuille de AMC sans avoir à déclarer quoi que ce soit nulle part, effectivement. Je me demande
parler
si...
Parler de crypto-monnaie en 5 minutes, c'est un challenge. Hein.
Qu'on a presque réussi. Presque réussi.
Mais bon, quand tu penses à... Enfin, juste pour être un peu plus large, c'est quand tu penses à la façon dont tu vas épargner et placer ton argent... Tu vas essayer de diversifier un minimum et à ce jour, alors que je suis un sceptique, qu'on soit bien clair, étant donné les performances des crypto-monnaies qui sont énormes, enfin je veux dire ça a doublé ou triplé, même si t'as un placement pépère dans un hedge fund qui fait du crypto sans être tu vois, dans les derniers tokens...
Meme token, ouais, c'est ça.
Voilà, les Shiba machins qui ont été multipliés par des milliers en quelques mois, tu as triplé ta mise en 2 ans. Quoi.
Mmh, c'est vrai. Je crois que tu dois nous quitter, Jeff.
Yep, il est 10h. Donc,
merci
beaucoup. On va arrêter le ding-ding. C'est le moment pour moi de faire ding-ding. C'était un grand plaisir, comme d'habitude. Marion et Patrick de vous retrouver. Et on se retrouve dans quelques temps.
Ça marche. Merci beaucoup, Jeff. À Jeff sur Twitter. Merci. Bon, on a un ou deux petits sujets en plus que j'aimerais évoquer avec toi, Marion. D'une part, Meta... bon, on va arrêter avec les ding-ding maintenant. Meta a annoncé qu'il n'arrive pas...
C'était juste pour Jeff, en fait.
Non, c'est pas ça, mais je pense que c'est des sujets plus rapides. Ok, je vais le mettre quand même.
Mais méfie-toi, parce que...
Il y a quelqu'un qui va lui dire ouais, « Quand t'es parti, ils ont arrêté avec les ding-ding. »
C'est clair.
Non, Meta a annoncé qu'il n'arrivait pas à suivre les recommandations de leur Oversight Board. Vous savez, ce comité de surveillance qu'ils ont établi eux-mêmes pour leur dire quoi faire. Ils ont quand même fait 78 recommandations en moins d'un an et ils étaient censés avoir 30 jours pour répondre. Et donc maintenant, Meta dit, donc c'est Facebook, hein, dit « Ouais, c'était peut-être un petit peu trop court. Ils n'ont pas réussi à suivre, non, même pas à répondre à toutes les recommandations en 30 jours, parce qu'il faut du temps pour étudier la faisabilité. Il y a seulement 12 recommandations qui ont été implémentées sur les 69 des deux derniers trimestres. 23 sont en cours d'implémentation et on a 17 qui sont juste à l'état d'études de faisabilité. Je crois qu'il est facile de regarder ça et de se dire bah, Facebook ou Meta se défilent. J'ai l'impression qu'ils sont en train de réaliser que, oui, effectivement, 30 jours pour certaines des recommandations de l'Oversight Board, qui sont quand même... Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Il faut peut-être... Ils ont vu un petit peu court, je crois. Moi, je n'y vois pas plus de malhonnêteté que ça, même si avec Meta, ils ne sont pas à leur premier coup fourré, mais quand même.
Oui, non plus, je ne suis pas du tout étonnée. En fait, il faut prendre du recul sur... une roadmap produit qui est déjà définie par les équipes produits. Genre, c'est quoi les priorités de la société sur l'année, sur les 6 mois, etc. Ils ont déjà un rythme. Je sais pas, là, a priori, parler de 6 mois, tous les 6 mois, ils ont des roadmaps. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils ne remettent pas en cause leurs priorités avant 6 mois. Donc, c'est très long. Et donc, ensuite, comment essayer de faire rentrer et de prioriser l'analyse de 78 recommandations ou même d'une dizaine de recommandations pour analyser l'impact sur l'expérience utilisateur, l'impact sur les revenus ou le business pour chacune, alors que ça faisait pas partie de tes priorités à l'origine. Donc en fait, ça rentre en compétition avec les initiatives qui ont déjà été validées à l'échelle de la société. Donc je pense que là, ils sont vraiment dans une phase où d'abord, ils savaient pas vraiment forcément à quoi s'attendre en termes de charge de recommandation, enfin de fréquence ou de nombre de recommandations qui
sont produites. Et même de lourdeur, ils ont des trucs exactement assez importants.
Mais qu'est-ce qui a été produit par l'Oversight Board ? Là, ils ont une meilleure idée maintenant, et maintenant, il s'agit de voir comment prioriser et faire rentrer en fait ces initiatives et ce travail d'analyse dans le cycle produit normal d'une société, en fait. Et c'est hyper intéressant. Je dis pas que c'est facile, mais c'est hyper intéressant. Et peut-être qu'ils vont se dire, bon, bah voilà, on se tient à analyser X recommandations, mais de la même manière, comme tu disais, c'est difficile de prévoir si une recommandation est plus lourde à analyser qu'une autre. Donc, comment tu fais, en fait ?
Ouais, on est d'accord.
Ça, c'est intéressant. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout de la mauvaise foi. Hein.
Je pense qu'il faut...
Enfin, je pense pas.
Ouais, je pense pas non plus. Il faut évidemment continuer à surveiller tout ça, mais là, je crois que c'est plus le retour à la réalité que et c'est même un bon signe parce que ça veut dire que l'Oversight Board, bah, ils font pas que des trucs faciles, quoi. Donc bon, on continuera à suivre ça. Le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est un sujet qui est à moitié tech, mais je vais le prendre par l'angle tech. C'est un tweet de comment il s'appelle le monsieur ? François-Xavier Olivaux, si je ne m'abuse, c'est ça, l'auteur de « La crise de l'abondance », qui évoque les problèmes posés par la manière dont on produit et les choses et dont les choses abondent aujourd'hui. Alors, il a écrit un livre pour parler d'une triple crise. Donc, il parle évidemment de la planète, des problèmes de la planète, le problème de l'argent qu'on imprime trop facilement et de l'homme qui est de moins en moins nécessaire face à la technologie qui est omniprésente. Ça, c'est le sujet de son livre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est aveuglément pour le progrès technologique. Mais il a fait un tweet, une série de tweets qui sera dans la newsletter d'ailleurs. Je vous la mettrai dans la newsletter, comme ça vous pouvez aller voir tous les détails. Mais il parle de l'augmentation du pouvoir d'achat qui est quelque chose de factuel, d'indéniable. Et il donne plein d'exemples hyper intéressants, même sur des domaines qu'on n'attendait pas forcément. Des domaines comme, évidemment, le prix du pain, mais aussi le prix de la nourriture en général, le prix des voitures. Il donne un exemple pour les voitures, que je vous retrouve l'exemple. Il disait, pour acheter une 2 chevaux en 1967, ça coûtait, entre guillemets, 2360 heures de travail au SMIC. Aujourd'hui, une voiture d'entrée de gamme qu'on trouve à moins de 10 000 euros, ça coûte environ 1 000 heures de travail au SMIC. Et les conditions, enfin l'état de la voiture a beaucoup augmenté. Elle est évidemment plus sécurisée, elle est chauffée, elle consomme beaucoup moins, etc., etc. Il fait une étude sur plein d'éléments qui sont hyper intéressants et qui dérangent beaucoup de gens. Enfin, c'est des choses qui dérangent les gens parce qu'on aime bien penser que tout va mal, que le monde est de pire en pire et que les gens sont moins bien lotis aujourd'hui qu'avant. Et évidemment, il met des avertissements en tout début de thread. Ça, c'est des moyennes, ça concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui sont dans des situations compliquées. Il y a des questions qui se posent avec le logement. Enfin bref, allez voir le tweet avant de retomber sur vos idées, sur vos a priori. Je pense que c'est vraiment intéressant. Entre parenthèses, allez lire Factfulness aussi. Mais ce qui est vraiment, ce qui me frappe, c'est aussi la manière dont ça touche la tech. Il y a un exemple sur l'abonnement. Alors, Internet, ça n'existait pas à l'époque. En 1974, il prend l'exemple de l'abonnement téléphone qui coûtait 35 francs. c'est l'équivalent de 55 euros aujourd'hui. Et c'était uniquement le téléphone fixe en 1974. Ça coûtait l'équivalent de 5,5 de SMIC pour se payer une ligne de téléphone mensuelle. C'était que le téléphone. Aujourd'hui, on a... Alors, 55 euros, c'est le prix que ça coûte. Bon, bah, c'est triple play, plus l'abonnement au smartphone, plus etc. Il y a des gens qui disent « Ah bah oui, mais attends, aujourd'hui, on paye Netflix, on paye machin, etc. » Un album, un 33 tours au début des années 80, alors ça remonte à un album en vinyle, aïe, ça fait 5 minutes déjà, non, j'avais commencé avant. Un album, ça coûtait environ 3 à 4 heures de SMIC, c'est-à-dire qu'il fallait travailler 3 à 4 heures, c'était environ 50 francs pour se payer un album au début des années 80. Aujourd'hui, un abonnement Spotify, un abonnement étudiant, ça coûte 5 euros. C'est-à-dire 30 minutes de travail au SMIC. Alors, si on double pour prendre l'abonnement pas étudiant à 10 euros, ça fait une heure de travail au SMIC. Un tiers ou un quart du prix d'un album. On peut y rajouter là-dedans, pour le prix d'un album, l'abonnement Spotify dont on parlait, l'abonnement, je ne sais pas, au Game Pass, enfin, toutes ces choses-là, pour le prix d'un album dans les années 80. Il parle aussi du Macintosh qui coûtait 29 000 francs en 1984 à sa sortie. Alors oui, c'est un truc super cher, mais les MacBooks aujourd'hui, ils coûtent 10 fois moins. Un PC d'entrée de gamme, ça coûte 100 fois moins et ça fait des choses, évidemment, qu'on ne pouvait pas faire avec un Mac à l'époque. En gros, il dit, oui, c'est indéniable, la technologie et le progrès améliorent la qualité de vie, le confort et le pouvoir d'achat des gens, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour finir, je dirais une chose, il cite une citation de Barack Obama, qui a très bien présenté les choses, c'était en 2017, je crois. Il disait, si vous pouviez choisir n'importe quelle période de l'histoire pour vivre, si vous ne pouvez pas choisir dans quelle classe sociale vous vivez, évidemment, si vous devez tomber au hasard, il est ridicule de choisir une autre période que maintenant. Et ça montre bien que aujourd'hui, c'est la période la plus où on a le plus de facilité, le plus de santé, de confort, de moins de maladies, le plus d'éducation, le plus de pouvoir d'achat de l'histoire. Il y a même un exemple dans le thread, un truc très drôle où il parle de le coût de l'éclairage et il remonte au paléolithique. Donc évidemment, c'est très spéculatif, mais il remonte au paléolithique. Et le coût de l'éclairage avec du feu, une bougie, etc., bah pareil, même par rapport à il y a quelques années, le coût de l'éclairage a été divisé par 10, 20, quand on est passé des technologies précédentes à celles d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je vous encourage à aller voir le thread qui sera dans la newsletter. C'est FXOL, si je ne m'abuse, le nom du compte du monsieur FXOL, François-Xavier Olivaux. Et voilà pour mon laïus sur ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là, Marion ? À moins que tu veuilles me contredire sur toute cette histoire, hein, tu peux bien sûr.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu aies cité Factfulness parce que ça m'a fait tout à fait penser à ça, c'est-à-dire les idées préconçues qu'on peut avoir et que finalement, ils nous retournent un petit peu la tête avec des datas et en prenant un petit peu de recul sur comment les données qu'on nous donne peuvent être déformées ou données qu'une version de l'histoire. Donc, c'est assez intéressant de voir ça.
C'est un danger de dire on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, parce que c'est vrai, bien sûr, mais il y a aussi un moyen de les analyser de manière à les comprendre et à comprendre la réalité. Et moi, ce qui me gêne dans certaines interprétations, c'est que on ne comprend pas la réalité et donc les solutions qu'on propose n'y sont pas adaptées. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il faut des solutions adaptées à la réalité. Et souvent, quand on est pris dans un dogme souvent politique, idéologique, et c'est le cas dans tous les côtés du spectre politique, eh ben on ne veut pas accepter certains éléments. Il y en a qui sont importants, que ce soit l'urgence de certaines choses ou les bénéfices de certaines autres. Et c'est important de les noter.
C'est intéressant de revenir au problème et de s'assurer qu'on comprend bien le problème au lieu de rester fixé sur des opinions ou des manières de voir le monde qui sont préconçues ou que la société ou notre famille ou notre environnement nous donne, en fait. Et juste de prendre un petit peu de recul sur ces idées, et on en a tous, hein, moi la première, hein, je suis pas en train bien de sûr. Dire que je suis mieux que les autres, hein, au contraire, mais de s'exercer à prendre ce qu'on nous donne avec un petit peu d'œil critique et de se questionner vraiment sur est-ce que c'est vraiment ça le problème ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, qui m'a pas été communiqué, et est-ce qu'on peut avoir une vision un petit peu plus globale, holistique un petit peu du problème, ça peut nous aider à mieux comprendre d'où ça vient et du coup avoir plus d'impact quand on propose des solutions et donc surtout des solutions plus adaptées.
Très bien dit. Merci beaucoup Marion, merci d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet maintenant qu'on se quitte ?
Bah bien sûr, sur Twitter, au pseudo Aizea Design, et sinon sur la chaîne Twitch Naotech, où je présente le mug tous les mardis matin à 8h en live.
Merci beaucoup. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. NotePatrick.com pour tous les liens, y compris le rendez-vous tech. 10 cafés et pas de Patrick, 9 cafés et un Patrick. C'est vous qui choisissez, patreon.com/rdvtech. Merci à tous et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.